Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Droit devant, une émission pour mieux comprendre vos droits. Le 4 décembre, une loi a été votée à l'Assemblée nationale. Elle vise à pénaliser la prostitution. C'est donc à ce sujet sensible que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, une revue de presse, des témoignages, une chronique pour comparer la prostitution dans les autres pays, et puis notre invité, Paul Le Damani. Il est président de l'UNEF à Rennes et il a accepté d'aborder avec nous le cas de la prostitution dans le milieu étudiant. Tout de suite, la revue de presse présentée par Thomas. Restez avec nous sur Radio Campus Rennes.
Alors pour commencer, quelques mots sur le contenu de la proposition de loi. La mesure phare prévoit de sanctionner les clients de prostituées d'une amende maximum de 1 500 €, qui sera portée au double, donc 3 000 € en cas de récidive. Signalons aussi que les clients ainsi pris sur le fait pourront être contraints à suivre un stage de sensibilisation visant, je cite, à les faire réfléchir sur les conséquences de leurs actes. La proposition, portée par les députés du Parti Socialiste Maud Olivier et Catherine Coutel, a été adoptée mercredi 4 décembre à l'Assemblée nationale. Elle doit maintenant être examinée et votée par le Sénat d'ici le mois de juin 2014. Revenons maintenant sur les débats qui ont traversé la presse durant la discussion du texte à l'Assemblée nationale. Pour donner une première idée du paysage, commençons par un article du Monde signé François Béguin, « Sanctionner les clients de prostituées, qui est pour, qui est contre ?» Ce texte fait l'objet d'un débat qui ne recouvre pas les clivages politiques traditionnels, nous dit François Béguin. Des associations féministes et de gauche se déclarent en sa faveur, au nom d'une position morale de respect des droits humains. Mais des associations du terrain dénoncent ce texte qui risquerait, selon elles, de précariser davantage les prostituées. Le collectif d'associations féministes Abolition 2012 soutient la proposition de loi, estimant qu'en payant pour obtenir un rapport sexuel, le client prostituteur impose sa volonté au mépris de l'autre et de son désir. Chez les opposants, les associations Médecins du Monde, ACT UP Paris, Le Planning Familial et AIDE dénoncent une loi de nature idéologique et le risque d'une précarisation accrue des personnes se prostituant. Si les clients sont poussés à la clandestinité, les personnes se prostituant, elles, le seront d'autant plus. Mises à l'écart des centres-villes, éloignées de l'offre de soins et de prévention, elles seront davantage exposées aux risques sanitaires. Le STRAS, syndicat du travail sexuel, dans un communiqué commun avec d'autres associations, épingle un texte n'ayant que faire des réalités du terrain et des analyses et témoignages des premiers et premières concernés. La sociologue François Gilles, dans une interview publiée le 4 décembre par le JDD, va dans le même sens. Cette loi ne va strictement rien changer. On sait déjà que les hommes des réseaux planquent les filles dans des appartements ou des hôtels bon marché. Les clients plus aisés, qui font appel à des escort girls, ne seront pas inquiétés. C'est la prostitution visible qui va disparaître. Au regard de ces joutes verbales, Claire Chartier du magazine L'Express s'interroge. Cette loi en vaut-elle la peine ? Le texte soulève une question de principe parfaitement légitime. Doit-on continuer à juger acceptable le fait d'acheter le corps d'une femme, fût-ce pour une durée déterminée ? Les clients des prostituées et une partie des féministes, à l'instar d'Elisabeth Badinter, estiment qu'une relation sexuelle négociée entre deux personnes consentantes n'a pas à être entravée par la loi. Il y va, selon elle, du respect de la liberté individuelle. Mais tolérer la prostitution, au motif qu'elle peut être volontaire, contribue aussi à perpétuer un système d'exploitation dans lequel une grande majorité est trop vulnérable pour avoir simplement le choix. Pour Claire Chartier, les deux positions sont irréconciliables. Seule la volonté politique peut clore provisoirement la polémique. Enfin, sur le site internet du mensuel Alternative Économique, Michel Abervé, professeur associé à l'Université Paris-Est, ose cependant une proposition destinée à rapprocher les deux points de vue. « Nous suggérons, dit-il, que la question de la prostitution puisse faire l'objet d'une réflexion sous l'angle de la gestion de cette activité par les prostituées eux-mêmes et elles-mêmes, collectivement, sous la forme de sociétés coopératives et participatives. Car il est un point commun à tous, partisans ou adversaires de la pénalisation du client, c'est de vouloir couper l'herbe sous le pied du proxénétisme et de la dépendance qu'il induit. Quelle meilleure formule pour le faire qu'une libre association de travailleurs et de travailleuses libres ?
Merci Thomas, on écoute tout de suite Change de Deftones sur Radio Campus Rennes.
Change into a fly. Change de Deftones. J'adore ce morceau. Maintenant, nous allons passer à l'écoute des micro-trottoirs. Hier, avec Marion, nous sommes allés interroger des commerçants, des passants, à propos de cette nouvelle loi dont Thomas nous a parlé. Et c'était intéressant parce qu'on a eu des réactions plutôt... un panel de réponses plutôt large, en fait. Des personnes qui étaient pour, des personnes qui étaient contre, avec des arguments assez variés. On va écouter donc le premier entretien où vous entendrez Marion poser la question à une jeune fille qui, elle, pour le coup, approuve cette loi au nom notamment du respect de la dignité humaine.
Donc par rapport à la loi de pénalisation des clients de la prostitution, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je suis totalement d'accord. Parce qu'à un moment donné, les prostituées, elles n'ont pas choisi leur métier. Je trouve ça normal aussi de pénaliser le client, même si pour certaines personnes, c'est un fantasme de coucher avec une prostituée, mais bon, après je pense chacun son avis sur la question, et moi je suis pour, mais ce serait bien si c'est pénalisé, enfin, en même temps les prostituées et les clients, quoi.
Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, cette loi ?
Je pense, ouais. Mais après c'est vrai que les prostituées, elles n'ont pas non plus choisi leur métier, peut-être qu'elles ont peut-être pas envie de faire autre chose, peut-être qu'elles n'ont pas envie de travailler et tout, mais... À un moment donné, je veux dire, je pense qu'il faut se respecter, respecter son corps, respecter les autres.
Pour le deuxième entretien, cette fois-ci, la jeune femme que nous avons interrogée pense que cette loi serait plutôt un écran de fumée, que ça ne changera rien, voire que ça pourrait malgré tout empirer la condition des prostituées, car le problème demeure dans l'illégalité de la prostitution, selon elle, et la tentation pour certaines personnes de transgresser cette illégalité. Et cette jeune femme voyait peut-être une solution, lui avait posé la question, dans une certaine réglementation de la prostitution, comme c'est le cas dans certains pays voisins européens, nous y reviendrons un peu plus tard.
Donc pour moi, que la loi passe ou pas, le problème est là depuis des années, il restera, et je pense que ça empirera le phénomène plus qu'autre chose.
Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence, par exemple ?
Pour moi, dès qu'on est dans l'illégalité, les gens, forcément, ils se sentent... Enfin, ils ont toujours envie de franchir le pas, et je pense que ça va faire qu'augmenter... Ouais, qu'augmenter le problème, quoi.
Rouvrir des maisons closes, comme c'est le cas en Hollande ou en Belgique, par exemple, ça pourrait être une solution, vous pensez ?
Ouais, moi je pense que franchement, ce serait une solution. Comme ça, au moins, tout va être structuré, tout va être encadré. Et ouais.
Cette fois-ci, on aura le témoignage d'un jeune étudiant qu'on a interrogé sur le campus de Rennes 2, qui est clairement contre cette loi, pour le coup, qui pense que ça aggravera les conditions de travail des prostituées.
Non, mais je pense que les conséquences vont être pires en fait pour les femmes elles-mêmes, puisque ça va plus être dans la rue comme ça à découvert, ça va être dans des petits lieux confinés où les clients vont être à l'abri en fait, où ils vont pas on va pas pouvoir les arrêter puisque ce sera fait dans des conditions encore plus déplorables. Et c'est vrai qu'il y a des pays où la prostitution est légale. Et je pense que c'est pas forcément un mal, puisque là effectivement on est quand même dans des conditions qui sont beaucoup plus profitables aux femmes. La prostitution en soi, c'est quand même pas quelque chose qui est moral. Enfin, je veux dire, c'est pas normal qu'on fasse ça. Mais c'est vrai que la légaliser, c'est quand même mieux pour la sécurité des femmes.
Donc toi, tu penses qu'il faudrait la légaliser, l'encadrer et non pas essayer, au contraire, de la punir et de punir les clients.
Il faut vraiment l'encadrer, ouais.
Et on termine avec toujours une réaction opposée à cette loi, mais cette fois-ci peut-être la plus argumentée de toutes nos réponses et sans doute la plus scandalisée, la plus outrée.
Bah alors déjà sur la nouvelle loi qui vient de passer là, moi je suis un peu choqué parce que on risque d'avoir beaucoup de problèmes de violence avec des prostituées, comme ça a déjà été le cas depuis la loi sur le racolage passif, et on le sait. Précarité installée, il y a de la violence, il y a des abus, des viols, et puis du coup, déjà que c'est pas un métier facile non plus, là ça va être, moi je dis, passez mon expression, mais le bordel quoi. Donc moi je vous dis, outré, et les gens que je connais, on est un petit peu choqués de ça, voilà.
Pour qu'il n'y ait plus de prostitution, enfin pour régler le problème, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Faudrait la légaliser au contraire ou
Moi je pense que oui, la légaliser, hein, parce que qu'on la légalise ou pas, de toute façon ça existera, ça a toujours existé, hein, c'est comme on dit la plus vieille profession du monde. Donc maintenant si on peut donner des conditions correctes, hein, parce qu'effectivement il y en a qui ne le choisissent pas, il y en a qui le choisissent, et ben il faut faire attention à elles, surtout celles qui ne le choisissent pas. Parce que déjà qu'elles sont sorties de leur pays, qu'on a pris leurs papiers, que c'est un petit peu des esclaves en fait, et ben si on peut leur éviter de se faire taper sur la gueule tous les deux jours, et de risquer de se faire tuer ou de se faire violer aussi, hein, parce qu'il y a ça, ben il faudrait qu'on légalise, moi je pense.
Il n'y a pas de risque après en légalisant que ça augmente encore plus le système mafieux, qu'il y ait encore plus de gens qui soient en fait dans l'illégalité parce que c'est autorisé, ils débordent.
Ouais, il faudrait voir. Alors après, est-ce que ce serait possible de cadrer aussi justement les trafics à côté d'une prostitution légalisée ça, je sais pas non plus. Hein. Après, les pouvoirs publics, ils ont toujours un manque d'intérêt pour la santé des gens, encore plus si c'est des gens en précarité, on le sait. Ouais, que ce soit des sans-papiers, que ce soit des femmes, des prostituées, ou des toxicomanes, ou même des homosexuels, par exemple. Hein. Parce qu'il y a ça aussi, hein, cette discrimination, quoi. Donc, il faudrait que nos pouvoirs publics s'intéressent. Et pour ça, je pense qu'il faudrait qu'on soit nombreux à adhérer à des assos qui représentent les citoyens, justement, dans la mobilisation pour orienter le gouvernement. Parce que les assos ont du poids, en fait, à l'heure actuelle. Quand on voit toutes les assos comme Médecins du Monde, Aide ou Handicap International qui arrivent à orienter un gouvernement, bah, je dis, pensons-y.
Parce que, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence néfaste, cette nouvelle loi, à votre avis ?
Des déviances, comment dirais-je, des débordements, en fait. Il y a des débordements, il y a plein de gens qui vont sûrement en abuser. Des pervers, il y en a à tous les coins de rue, toi. De toute façon, plus on censure, plus le peuple, plus les gens en veulent. Ouais, si on regarde, il y a moins de débordements dans des pays dans lesquels, par exemple, le cannabis est dépénalisé, au moins dépénalisé, que dans les pays dans lesquels c'est pénalisé.
Voilà, maintenant on va passer à une petite chronique faisant état de ce qu'il en est de la prostitution dans des pays assez proches de la France. Donc pour commencer, certaines juridictions d'Europe de l'Est comme en Ukraine interdisent clairement l'acte de prostitution. D'autres pays, comme la France, n'interdisent pas proprement parler la prostitution, mais interdisent les activités typiquement associées avec la prostitution, comme la sollicitation dans un lieu public, l'exploitation d'un bordel, le fait de fournir des locaux pour la pratique de la prostitution, le proxénétisme, etc. etc. Tandis que dans un petit nombre de pays comme la Hollande, la prostitution est légale et réglementée. En France, encore une fois, la prostitution est tolérée, mais le racolage et le proxénétisme y sont interdits, comme nous l'avons dit. Depuis la loi Marthe-Richard de 1946, l'abolitionnisme ne lutte plus seulement pour l'abolition de la réglementation de la prostitution, mais pour l'abolition de la prostitution dans son ensemble. La loi sur le proxénétisme est particulièrement sévère lorsque le proxénète agit sur des mineurs, des personnes vulnérables comme les femmes enceintes ou les handicapés. La prostitution intéresse aussi les autorités sur le plan fiscal, moral et sanitaire. On peut donc distinguer globalement trois conceptions de la prostitution, produisant trois approches politiques des États sur l'existence de la prostitution. Premièrement, l'approche réglementariste voit la prostitution comme une activité professionnelle normale. Il suffit de la réglementer et de la réguler, comme toutes les autres, et de l'encadrer en protégeant les droits des travailleurs et en prévenant les abus des employeurs. Les prostituées sont dès lors considérées comme des travailleurs du sexe. C'est le cas par exemple de la Hollande. La réglementation s'est souvent faite par le biais de lois et de registres de prostituées. Aujourd'hui, les résultats les plus aboutis de la logique réglementariste se trouvent dans la législation des Pays-Bas et de l'Allemagne. Dans ces deux pays, toutes les entreprises de 15 employés et plus, y compris les bordels, doivent obligatoirement avoir l'emploi des apprentis sous peine de pénalité financière. D'autres pays comme la Turquie, la Tunisie, la Suisse, la Hongrie, la Grèce et l'Autriche ont également légalisé la prostitution. Ces politiques ne semblent pas avoir permis de freiner l'exploitation sexuelle, mais au contraire peuvent rendre plus difficile malheureusement la lutte contre la criminalité organisée. Deuxièmement, nous avons l'approche abolitionniste, où la prostitution est une forme d'exploitation et une atteinte à la dignité humaine qui doit être abolie. Les personnes prostituées sont des victimes non punissables et les proxénètes des criminels, selon le régime abolitionniste. Les clients peuvent être sanctionnés au titre de corrupteurs. En Suède, en Norvège et en Islande, les clients sont punis par la loi, mais pas les prostituées. Les pays abolitionnistes refusent toute réglementation, laquelle ne peut que cautionner l'existence de la prostitution. Des rapports mentionnent des bilans contrastés concernant l'abolition de la prostitution en Norvège, la précarisation des prostituées n'ayant pas diminué. Enfin, nous avons l'approche prohibitionniste, qui voit des criminels dans les personnes prostituées, et dans les proxénètes, et dans les clients. La police et la justice sanctionnent ces activités, et les clients peuvent être sanctionnés bien sûr. Les pays prohibitionnistes les plus connus sont l'Égypte, le Maroc, l'Arabie Saoudite ou encore la Corée du Sud. S'agissant du trafic d'êtres humains, certaines femmes sont forcées par ce genre de trafic à se prostituer. Dans le cadre spécifique de la prostitution forcée, des réseaux criminels peuvent utiliser des techniques de contrainte comme la confiscation de papiers d'identité, le chantage familial, la surveillance par des souteneurs. Il arrive que les prostituées soient l'objet de trafic et soient vendues. Elles peuvent également être droguées de force afin d'être plus faciles à surveiller. Les destinations les plus connues pour les victimes de la traite des êtres humains sont la Thaïlande, le Japon, Israël, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie et les États-Unis, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Beaucoup de femmes, dans le cadre de cette activité, émigrent vers des pays parfois très éloignés. Les principales sources de traite des personnes comprennent la Thaïlande, la Chine, le Nigeria, l'Albanie, la Bulgarie, la Biélorussie, mais aussi la Moldavie et l'Ukraine. S'agissant de pays plus proches de nous, en Europe à proprement parler, en Allemagne, l'exercice de la prostitution est légal et régulier depuis 2002. Les maisons closes sont autorisées de nos jours. Les prostituées sont donc aux yeux de la loi des travailleuses comme les autres en Allemagne. Elles payent leurs impôts et disposent d'une assurance chômage et d'une couverture santé. Au Royaume-Uni, la prostitution est autorisée, mais la loi interdit le racolage et le proxénétisme. En Angleterre et au Pays de Galles, une loi punit depuis 2010 tout acte sexuel acheté à des personnes se prostituant sous la contrainte. En Écosse, la loi est plus dure. Le simple fait de solliciter une personne prostituée dans un lieu public ou de rôder dans les rues dans un but sexuel est considéré comme un acte criminel. Les personnes arrêtées encourent une peine d'amende allant jusqu'à 1500 euros. La Suède est le premier pays européen à avoir criminalisé la prostitution en 1999. L'exercice de la prostitution n'est pas illégal, mais l'achat d'un acte sexuel constitue une infraction très grave. Le client, considéré comme un délinquant, risque une très lourde amende, proportionnelle à son salaire. Il encourt également une peine de prison pouvant atteindre un an d'emprisonnement. La prostituée, considérée comme une victime, ne risque rien pénalement. En Grèce, la prostitution est légale et se pratique dans un cadre réglementé. Les maisons closes doivent être contrôlées et répertoriées. Toutefois, avec la crise économique grave, la situation des prostituées s'est largement précarisée. Elles sont de plus en plus nombreuses en provenance d'Europe de l'Est à souffrir des réseaux mafieux et clandestins. Enfin, en Belgique, la prostitution n'est pas une infraction. Les maisons closes sont autorisées. L'organisation d'une activité de prostitution au sein d'un établissement n'a rien d'illégal. Par contre, le code pénal belge punit le racolage et le proxénétisme, c'est-à-dire celui qui tire le profit, de quelque manière que ce soit, de la prostitution d'autrui.
Merci Geoffrey, on écoute maintenant Perfect Circle, The News. Paul Le Damani, tu es président de l'UNEF à oui. Rennes. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc juste pour rappeler aux auditeurs, donc il y a la loi sur la pénalisation de la prostitution, notamment vis-à-vis des clients, qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Comment se place l'UNEF par rapport à cette nouvelle ?
Tout d'abord, l'UNEF, c'est le syndicat étudiant, donc la première association étudiante en France. L'UNEF fait partie du collectif Jeunes pour l'abolition. C'est un ensemble d'organisations qui s'opposent à la prostitution et qui demandent la pénalisation, notamment des clients de prostituées. Et donc, nous défendons ce projet de loi qui est en train d'être discuté.
D'accord. Au niveau de Rennes, comment on peut définir la prostitution, notamment au niveau des études ? Est-ce qu'il y a des étudiantes ?
Aujourd'hui, on sait bien que la situation financière des étudiants est très compliquée, que c'est une période, les études qui est souvent une période de précarité, qui peut pousser donc un certain nombre de personnes vers la prostitution. Généralement, c'est pas le premier choix que font les étudiants et les étudiantes quand ils rentrent à l'université. Au contraire, ils essayent de trouver des solutions. On sait que 73% des étudiants sont obligés de se salarier pour financer leurs études. On sait qu'il y a une dépendance aussi familiale qui est assez importante, puisque tu as 75% des étudiants qui dépendent complètement en fait de leurs parents. Mais la prostitution existe et se développe, notamment dans ces périodes là très très difficile, dans lequel il faut bien payer le loyer à la fin du mois et pouvoir se nourrir. Généralement, ça se fait la personne passe par des réseaux, alors elle ne le choisit pas principalement, c'est-à-dire que elle commence à sortir, elle va en soirée, puis un jour on lui propose de la drogue, et puis un jour on repropose, et elle finit par rentrer dans un groupe de personnes, et puis c'est ce groupe de personnes, ça se trouve que c'est un groupe de personnes mafieux et qui la pousse progressivement à se prostituer. Ça peut être au début juste montrer ses seins pour un billet, puis ça finit par coucher avec les personnes qui souhaitent avoir des prestations sexuelles.
Et ça, donc, c'est relativement difficile à mesurer le nombre d'étudiantes.
C'est particulièrement dur parce que, un sondage, on sait comment ça se déroule et le sujet de la prostitution est extrêmement sensible, il est tabou même. Aujourd'hui, la prostitution, je n'ai aucun chiffre sur le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui se prostituent. La seule chose que je sais, c'est qu'on a une augmentation de cette prostitution. Alors, comment et pourquoi ? C'est parce que, en fait, j'ai les chiffres de la prostitution en général, notamment des femmes et des nombres de prostituées en France. Et on voit que, notamment chez les jeunes, il y a une augmentation de ce chiffre-là. Donc je peux imaginer que dans cette augmentation-là, il y a une part d'étudiantes et d'étudiants qui sont amenés à se prostituer.
Et comment ça se fait alors qu'à Rennes, après, quand on va dans le centre-ville, on ne les voit pas ? Où est-ce qu'elles se situent ?
On sait qu'il y a eu une loi sous Nicolas Sarkozy qui a interdit le racolage passif. Ce qu'on appelle le racolage passif, c'est quand les prostituées sont juste sur le trottoir, donc les grands boulevards, et la personne s'arrête en voiture et lui demande est-ce que tu veux venir, c'est combien, et donc la personne s'en va avec la prostituée. Ça a été interdit, ce qui a poussé les prostituées à se retrouver dans des coins un peu moins sécurisés, si je puis dire. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas tendance à les voir. Ça peut se trouver quand même autour de la gare, on peut trouver quand même des personnes qui se prostituent. Ça se fait principalement du coup sur Internet, notamment la prostitution étudiante. C'est des réseaux qui se tissent sur Internet.
Par rapport à la loi là, qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, il y a un gros débat autour de la question. Est-ce qu'on doit être pour ? Est-ce qu'on doit être contre ? Comment tu peux résumer, toi, ce débat, les différentes positions
Ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est qu'on n'a pas un débat binaire pour ou contre. En fait, on a vraiment toute la société qui s'active et qui se pose des questions sur cette question-là. On a donc là un mouvement extrêmement réactionnaire et particulièrement viriliste d'hommes qui disent « Ouais, nous, on a le droit à des prestations sexuelles. Et le corps de la femme, si il peut se louer s'ils le veulent bien, après tout on est deux adultes consentants, etc. Puis il y a les abolitionnistes qui disent non, c'est juste pas possible. Aujourd'hui on sait très bien que la prostitution, c'est avant tout une violence. Pourquoi ? Parce que l'écrasante majorité, 80% des prostituées ne font pas ça par choix. Et puis il y a d'autres personnes, donc là d'autres mouvements qui se disent progressistes et qui interpellent la société en disant oui, mais nous, on aimerait que les prostituées aient des droits pour qu'elles puissent être protégées. Et aujourd'hui, c'est pas normal que les prostituées ne puissent pas avoir de droits. Et donc, ça, c'est tout à fait entendable. Et donc, là, le débat se déplace et je pense qu'il est plus intéressant parce que la question, c'est comment faire pour protéger et pour défendre ces personnes. Et moi, je pense que l'État doit ne jamais perdre de vue l'intérêt général. Et dans l'intérêt général, évidemment, il n'y a aucun intérêt à ce que le corps de la femme puisse se marchandiser. Et donc, là, un vrai débat se pose. Aujourd'hui, on voit bien que les pays qui ont réglementé la prostitution, par souci justement de progrès et d'avancée sociale, ont vu l'explosion déjà d'une part de la prostitution. Je prends l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, il y a 400 000 prostituées. C'est un chiffre qui est énorme, 400 000 prostituées. Et donc, l'Allemagne, l'État allemand a décidé de donner un statut aux prostituées qui souhaitaient se prostituer. Bon, 44 seulement ont pris ce statut. Donc sur 400 000, 44 sont protégées. On voit que dans ces 400 000, il y a principalement de la traite d'êtres humains, qu'on a tous les réseaux mafieux qui sont juste démultipliés et que ça n'a certainement pas réglé la situation. On ne peut pas accepter cela. Et donc voilà, l'UNEF pense que cette loi, notamment, est positive, puisqu'il y a deux choses importantes dans la loi qu'il faut voir. Il y a le fait de revenir sur l'interdiction du racolage passif, donc ça va être abrogé. C'est-à-dire que les prostituées ne vont plus devoir se retrouver dans des endroits obscurs dans lesquels elles étaient plus protégées du tout. Et puis, deuxièmement, on s'attaque et on continue de s'attaquer. Et je pense qu'il faut continuer de toujours plus fort de s'attaquer aux réseaux mafieux qui font cette traite d'êtres humains et qui poussent les femmes à se prostituer pour pouvoir vivre. Notamment, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sans papier et qui viennent par des réseaux mafieux en France et on leur dit « Écoute, tu te prostitues, sinon on ne donne pas ces papiers. » Ça, c'est juste inadmissible. On doit protéger ces personnes-là. On ne les protège pas en leur donnant un statut. On les protège en les sortant de la prostitution.
Merci beaucoup, Paul, pour ton intervention. Tu vois d'autres choses à dire ?
Si, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la prostitution, le fait qu'il n'y a pas que des femmes qui se prostituent. Oui, c'est vrai, il n'y a que 80% des prostituées qui sont femmes. Non, c'est juste une majorité écrasante. Et on sait que sur les 20% de prostituées hommes, il y a une majorité de transgenres. On sait que 99% des clients sont des hommes. Et donc là, on a sous nos yeux, manifestement, la domination des hommes sur les femmes. Et c'est insupportable dans notre société de pouvoir accepter cela et de pouvoir le réglementer. Puis, deuxième chose, on a dans cette prostitution pas uniquement la domination de l'homme sur la femme, on a la domination des pays riches sur les pays pauvres, puisque principalement les prostituées viennent des pays pauvres. Et donc là, on a une nouvelle domination qui est encore plus insupportable à rajouter à celle-ci. Donc on peut pas accepter ça dans notre société.
Voilà, c'est maintenant la fin de cette nouvelle émission de Droit Devant. Merci beaucoup à Claude, encore une fois, pour la technique impeccable. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci Marion. Merci Thomas. Et à l'année prochaine.
Merci Geoffrey. Bonne journée à tout le monde et
bonne
à bientôt.
Journée. À bientôt.